Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il y a un an, les premières manifestations de jeunes pour le climat s'organisaient et les étudiants de grandes écoles lançaient un manifeste pour un réveil écologique. De HEC Paris, AgroParisTech, Centrale Supélec, l'École Polytechnique ou encore l'ENS Ulm, ils appelaient les futurs diplômés à soutenir un changement radical de leur vie professionnelle. Aujourd'hui, dans cette quête de sens, comment ces jeunes gens poussent-ils les institutions à repenser leur cursus et les entreprises à entendre leurs revendications ? De quelle manière des chercheurs, professeurs, chefs d'entreprise et décideurs publics prennent leur part, notamment dans le campus de la transition qui a ouvert ses portes en 2019 au domaine des forges en Seine-et-Marne, dans l'attente d'un livre blanc sur la place de l'environnement dans l'enseignement supérieur de la part du ministère de la Recherche et de l'enseignement qui y travaille justement actuellement. Regardons du côté de ces grandes écoles et de ce campus inédit et novateur, un laboratoire d'expérience pour tous. Avec nous, Cécile Renoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au Centre Sèvres, vous enseignez aussi à l'École des Mines de Paris, à Sciences Po et à l'ESSEC, où vous dirigez le programme de recherche CODEV, Entreprise et Développement, et vous êtes coprésidente du campus de la transition. À vos côtés, Rodolphe Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de stratégie et politique d'entreprise et le fondateur et directeur académique du Centre Société et Organisation SNO de HEC, hein, l'École des Hautes Études Commerciales de Paris. Et Philippe Drobinski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique et directeur du laboratoire de météorologie dynamique. École Polytechnique en co-tutelle avec le CNRS, l'ENS Paris et Sorbonne Université. Et avec vous, un beau panel de grandes écoles à tous les trois. Et également dans le studio, Anne-Rel Prieto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'École Polytechnique et vous venez d'intégrer le corps des mines. Et je précise qu'en seconde partie d'émission dans l'œil du monde planète, la journaliste Audrey Garrig sera avec nous depuis la rédaction du journal Le Monde, notre partenaire, pour nous parler du prochain sommet de la jeunesse qui aura lieu le 21 septembre à New York, au siège de l'ONU, et nous parler aussi de l'étudiant français qui a été sélectionné pour y prendre part. Et enfin, l'escale verte nous emmènera du côté de Retiers, près de Rennes, pour prendre des nouvelles de la rivière La Seine, polluée par Lactalis en 2017. Nous serons en duplex avec Jérémy Grandière, président de la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bienvenue à tous et merci à l'équipe qui m'entoure. Anaïs Morales, bien sûr, avec l'aide de Anne Gouzon, Caroline Chausset, Vanessa Chang, Valérie Ernoul et puis toujours Alexandra Malka à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Dalia A et Déborah Dagobert.
Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte.
C'était le 30 novembre 2018, état de conscience d'un étudiant, Clément Chouanne, lors de la remise des diplômes d'ingénieur à Centrale Nantes. Une déclaration en écho au message diffusé par le Manifeste pour un réveil écologique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce message, Anne-Rel Prieto ?
Le message du Manifeste, pour le résumer rapidement, pourrait être tourné de la manière suivante. D'une part, les étudiants expriment la contradiction très forte qu'ils ressentent entre leur sensibilisation aux enjeux écologiques et les sorties qu'on leur propose, donc à l'issue de leur formation, en termes de projets professionnels. Donc une fois ce constat posé, ils se disent prêts à sortir de leur zone de confort et font cet appel très fort en encourageant les entreprises à changer de modèle sous peine de ne plus aller travailler chez les groupes les plus polluants ou qui en tout cas n'intégreraient pas l'environnement au cœur de leur stratégie.
En moyenne, on peut dire que dans les grandes écoles, 25% des étudiants se sont vraiment mobilisés, ont revendiqué cette quête de sens. Rodolphe Durand, vous avez constaté ça aussi ?
Oui, absolument. La mobilisation a été très forte. L'écho au sein des différentes écoles s'est répandu comme une traînée de poudre. Et je tiens à dire que cet appel a été évidemment entendu et que des réponses existaient déjà dans de nombreuses écoles et que grâce à l'appel et au manifeste des étudiants, eh bien ces réponses qui étaient peut-être sous-dimensionnées se retrouvent mises au devant de la scène et du coup bénéficient d'un effet amplificateur.
Une réaction aussi, Cécile Renoir et Philippe Drobinski, sur ce manifeste là, quand vous avez découvert ces actions d'étudiants, ça vous a surpris ou finalement vous le pressentiez déjà, vous aviez déjà senti cette quête de sens, Cécile Renoir?
Oui, moi je suis témoin depuis plusieurs années de la frustration croissante d'étudiants que je côtoie là, dans les écoles où je peux enseigner et du sentiment que Andrel vient d'exprimer, de ce décalage entre le niveau d'intention affichée parfois de discours et puis la réalité des cursus qui sont pas du tout à la hauteur pour l'instant. De la même manière que dans nos vies quotidiennes, il y a encore énormément à faire pour pouvoir transformer l'essai à la hauteur des enjeux. Alors je rejoins complètement ce qui était dit sur le fait que pour l'instant les propositions faites par les écoles, les universités sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Donc là, je trouve que excellente nouvelle que cette mobilisation des étudiants qui aiguillonne les générations au-dessus, qui sont parfois un peu enquistées dans leurs habitudes, dans leur manière d'enseigner pour certains professeurs, dans leur façon très cloisonnée d'envisager les problèmes, pour inviter à une transformation des manières d'enseigner, de faire de la recherche et de vivre.
Philippe Drobinski, donc cet état des lieux, et en même temps j'ai le sentiment que vous, à l'école polytechnique, ça fait quelques années qu'il y a des enseignements sur ce terrain-là, enfin en tout cas des choses mises en place, dites-nous.
Je dirige le laboratoire météorologie dynamique, qui comme vous l'avez dit a au moins trois tutelles universitaires, que sont donc l'école polytechnique, l'école normale supérieure et Sorbonne Université. Donc à ce titre, il est beaucoup plus facile de dispenser un enseignement sur les questions environnementales à partir du moment où un laboratoire de recherche de renom est capable de fournir donc de la formation de haut niveau. Donc effectivement, pour reprendre le cas spécifique de l'école polytechnique, ça fait plus de 20 ans qu'on enseigne les questions du climat et les problématiques environnementales. Jusqu'à présent, donc cette formation, elle est donnée à partir de la deuxième année, avec un premier cours sur les questions de la dynamique du climat et de l'océan. Et grosso modo, effectivement, un quart de la communauté polytechnicienne suit ce cours. Et puis, nous avons une offre, pour le coup, de formation en troisième année, donc une année un peu de spécialisation, où là, deux parcours sont dédiés véritablement à ces questions d'environnement ou de transition énergétique. Donc, pour nous, l'effet du manifeste, d'abord, vous me demandez si on était surpris. Moi, j'étais surtout réjoui. Je suis réjoui parce que je suis climatologue, en fait, et que ma communauté alerte sur la question du réchauffement climatique depuis maintenant près de 50 ans. Donc, je suis réjoui parce que le discours que le GIEC porte, mon laboratoire est un laboratoire extrêmement actif dans la rédaction du rapport du GIEC, le discours que l'on porte a doublé, je dirais, sa caisse de résonance à partir du moment où un levier extrêmement fort nous permet donc justement de cette amplification, c'est le levier de cette nouvelle génération d'ingénieurs en quête de sens. Donc ces générations qui d'ailleurs ne sont plus futures, mais qui sont bien celles que l'on forme maintenant.
Oui, mais qui seront les futurs décideurs
et voilà.
Aussi.
Alors, il y a deux choses, et justement, ça je tiens à le dire aussi, dans cette réflexion qu'on a sur comment on forme ces questions d'environnement, on doit travailler, je dirais, le plus tôt, dès la formation initiale. Donc ça, c'est ce qui est mis en place, d'ailleurs, grâce aux étudiants du manifeste. Nous avons aussi développé toute une offre de formation exécutive, donc de formation professionnelle aux questions environnementales, parce que les décideurs par contractuel, ceux qui doivent agir maintenant, et c'est ceux-là qui sont aussi importants, ont besoin d'être formés.
Rodolphe Durand.
Oui, je voulais réagir à cet élément-là, c'est-à-dire le fait de dire que les générations à venir sont celles qui détiennent les clés. Alors oui, certes, mais enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ma génération, c'est-à-dire en tant que père, ayant l'âge d'être père des élèves qui sont actuellement dans les grandes écoles, qu'incombe la responsabilité. Donc ne rejetons pas sur les jeunes cette responsabilité. Et par rapport aux enseignements effectivement liés à ces thématiques, en parlant du côté des écoles de commerce, on voit un mouvement d'ensemble parmi ces écoles d'une prise de conscience de ces réalités. Donc typiquement à HEC, aujourd'hui, c'est pas 25% des étudiants, c'est 100% des étudiants qui rentrent cette année qui ont eu une formation sur la quête de sens, un déplacement à la mer de glace à Chamonix, qui sont donc amenés à réfléchir à ces sujets, écrire un mémoire dessus, 100% des étudiants qui vont passer un test sur les questions principales liées à la soutenabilité, 100% des étudiants qui vont avoir une application mobile avec les 25 notions clés autour de la soutenabilité, l'environnement, les émissions, l'économie circulaire, etc. 100% des étudiants qui vont être évalués sur ces sujets.
Donc ça, c'est effectif pour cette rentrée-là.
Pour cette rentrée-là.
Voilà, ça veut dire que le manifeste, que le mouvement des jeunes a quand même déclenché quelque chose?
SNO, donc le centre que je dirige, existe depuis 10 ans. Donc tout ça avait été préparé depuis quand même bien longtemps. Il est certain que ce n'était pas 100% des étudiants qui étaient affectés par ces cours. Mais les cours reçus par effectivement le manifeste, plus d'autres interpellations d'acteurs économiques, hein, certains hauts dirigeants écrivant par exemple à nos dirigeants en demandant que faites-vous sur ces dimensions-là. Donc du côté, je dirais, de nos étudiants qui vont dans le monde de l'emploi et du côté des employeurs qui sont là pour les recruter, les pressions sont fortes, existent. Et évidemment, quand on a un centre de recherche comme SNO qui est transversal avec toutes les disciplines du management représentées, eh bien c'est vrai qu'on peut avoir une courroie de réponse qui nous permet de lancer ces cours-là disponibles pour tous les étudiants.
Anne-Rel Prieto, où se situe le fossé vraiment entre les attentes de vous, jeunes, et l'avenir qui vous est proposé? C'est cet après, et puis d'une manière générale, comment est-ce que les professeurs ont réagi à ce manifeste finalement en interne dans l'école?
Déjà,
je rappelle que vous étiez à Polytechnique et vous êtes maintenant diplômé et que vous rentrez dans le corps des mines.
C'est ça. Comme l'expliquait bien Monsieur Drobinski, il y a un certain nombre d'élèves à l'école polytechnique, mais plus largement en école d'ingénieurs et je pense dans d'autres cycles universitaires, qui suivent des cours sur des enjeux environnementaux qui sont importants. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tous les élèves. Et ça, c'est peut-être une première revendication et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'ensemble des élèves qui transitent par le système supérieur français devraient être informés et formés en enjeux environnementaux.
Cours obligatoire, dans le cursus tronc commun, j'ai envie de dire.
Oui, donc informés sur les limites du système Terre, sur les crises environnementales que nous vivons actuellement, que ce soit climatique, que ce soit au niveau de la biodiversité, que ce soit au niveau de l'épuisement des ressources, et formés pour y répondre. Et donc, sur ce point, je peux apporter peut-être le témoignage que j'ai eu de certains dirigeants d'entreprise, qui est que certaines grandes entreprises françaises voudraient bouger sur ces enjeux, mais un des freins qu'elles identifient, c'est que leurs collaborateurs en interne ne sont pas suffisamment formés. Et donc là-dessus, les écoles, les universités ont vraiment un rôle à jouer. Et les entreprises également. Car c'est aux entreprises de dire, en fait, d'identifier quels sont leurs besoins précisément, de les communiquer aux écoles, et donc qu'il puisse vraiment y avoir un travail main dans la main entre les étudiants, entre les entreprises, les directeurs d'établissement, pour mettre en place des formations pertinentes.
Oui, alors ce qui est très important...
Rodolphe Durand et ensuite Cécile Renoir.
C'est que c'est toutes ces dimensions liées au climat en termes de compétences ne sont pas reconnues dans des répertoires de compétences du côté des ressources humaines de ces grands groupes. Donc par exemple, on développe un cours, nous, online, qui s'appelle Sustainable Transition Management, dans lequel on va avoir Sustainable Finance, Sustainable Marketing, Stratégie, etc. La difficulté qu'on a lorsqu'on discute avec les directeurs des ressources humaines des grands groupes, c'est que la qualification de répertoire des compétences et donc ensuite du profil de carrière de promotion à l'intérieur des groupes, comme vous venez de le dire très bien, n'est pas encore complètement identifié. Le domaine étant transversal et touchant à plusieurs fonctions, ça bouscule un petit peu les habitudes aussi des ressources humaines dans ces grands groupes.
Ah oui, Cécile Renoir, hein, on se rend compte quand même qu'il y a des mots bannis aussi, alors soit dans les cursus ou soit dans les grands groupes, hein, comme sobriété, décroissance. Par contre, il y a les mots qui disent quelle est la société d'aujourd'hui, hein, société capitaliste et de surconsommation. C'est quand même l'état des lieux et c'est ce fossé certainement qui interpelle les jeunes, qui les questionne, hein, ces jeunes qui veulent être des vivants et non des survivants. Comment vous ressentez cet état des lieux? Et concrètement, c'est vrai que le monde professionnel et économique n'est pas en adéquation aujourd'hui avec l'urgence climatique et environnementale.
Pas du tout. Et je pense qu'il y a à la fois, il y a un niveau aujourd'hui de conscience grandissante de la gravité, de l'urgence qu'il y a à faire de notre planète un lieu qui ne devienne pas un lieu absolument inhospitalier et invivable, qui commence à le devenir déjà pour un certain nombre de personnes. Je pense que la plupart des formations aujourd'hui restent quand même à un niveau d'exigence qui n'est pas à la hauteur des enjeux et de la radicalité du questionnement à mener collectivement, et que ce soit au niveau des politiques publiques, au niveau des stratégies d'entreprise, au niveau des décisions personnelles en termes de choix de consommation, Si on réalise que pour mettre en œuvre vraiment l'accord de Paris, il faudrait en moyenne diviser par 6 l'empreinte carbone d'un Français qui est de l'ordre de 12 tonnes par an aujourd'hui et arriver à moins de 2 tonnes par an, quand on commence à regarder ce que ça signifie en termes de choix, de mobilité, de consommation alimentaire, de biens manufacturés et autres, ça veut dire des changements radicaux. Colossaux, radicaux. Mmh. Et là, je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire. Et ce que je trouve préoccupant, c'est parfois le fait qu'on peut se gargariser quand même de bonnes intentions, de discours. Et c'est vrai qu'il faut regarder aussi les choses qui naissent, cette conscience croissante, mais en même temps être très lucide sur le fait que quand, par exemple, du point de vue des logements collectifs, on ne réalise que 10% de ce qui est prévu, y compris par la loi de transition énergétique, par an, on n'y est pas du tout. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui se font, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, pour moi l'interrogation, c'est comment vraiment transformer l'essai à la hauteur de l'interpellation des jeunes, mais aussi je crois que voilà, dans les générations au-dessus, il y en a aussi beaucoup, oui. Y compris dans les entreprises, qui ont envie que ça bouge.
Anne-Rel Prieto.
J'aimerais rejoindre Cécile sur l'idée des ordres de grandeur, qui est à mon avis vraiment essentielle et devrait faire partie du socle commun que tous les étudiants maîtriseraient en sortie d'école ou d'université. Parce que il faut vraiment une réponse qui soit à la hauteur des enjeux. Mais pour cela, il faut vraiment se rendre compte des enjeux avant tout.
Et donc ça passe par l'enseignement et ça passe aussi par des débouchés en adéquation avec vos envies, vos quêtes pour le monde de demain.
Évidemment. Et un enseignement qui soit donc en même temps commun sur certaines notions clés et en même temps avec des spécificités selon les débouchés, comme vous le dites très bien, qui fasse que les étudiants en école d'ingénieur peut-être s'intéressent plus à l'éco-conception ou aux limites du système Terre, que les étudiants d'école de commerce puissent avoir une formation approfondie sur la finance verte, etc., etc.
Cécile Renoir, et ensuite je donne la parole à Philippe Dropensky.
Oui, je voulais embrayer sur ce qui était un peu à l'origine d'ailleurs de la création du campus de la transition, qui est donc une initiative qui est née suite à des discussions, des échanges entre enseignants-chercheurs de différentes disciplines, professionnels travaillant dans des grands groupes ou dans des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, des étudiants, les uns et les autres se disant au fond, est-ce qu'il ne faut pas essayer de créer une initiative qui soit à côté, pas en concurrence des grandes écoles et des universités, mais qui permette d'essayer de vivre ce qu'on enseigne et de se mettre soi-même en mouvement pour réaliser un peu ce que ça veut dire que d'être à la hauteur de ces enjeux, d'intégrer un peu ces ordres de grandeur dont Anne-Rel vient de parler, et avec l'idée qu'il s'agit de former des gens qui ne soient pas hors sol, et l'idée étant de relier la question d'un enseignement enraciné, de retrouver un rapport à la nature, aux autres, sans doute plus ajusté à soi-même, et en même temps avec la conscience des enjeux globaux. Et la nécessité de réfléchir sur ce que les anglo-saxons appellent les metrics, c'est-à-dire tous les instruments par lesquels nous évaluons la façon dont la richesse est créée et partagée.
Philippe Dropensky et puis donc Rodolphe Durand, est-ce que les grandes écoles ne devraient pas conditionner leurs partenariats, leurs alliances avec les entreprises à une politique vertueuse ? On en est là aujourd'hui.
Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu contre les postures. Il faut d'abord savoir que le monde de l'entreprise, c'est probablement le monde qui est capable de se projeter bien au-delà du monde de la décision publique. Un président, c'est 5 ans, un député, c'est 5 ans, etc. Donc, finalement, la seule organisation qui est capable de se projeter à 20, 30 ans, ce sont les entreprises. Et donc, ce sont des acteurs majeurs de cette transition. Donc d'abord, il ne faut pas, selon moi, avoir une posture en disant, d'abord, il y a les bons, les méchants, et puis peut-être que le monde de l'entreprise, c'est peut-être pas non plus que les bons. Donc ça, c'est le premier point. À partir de là, il faut effectivement se donner une grille de lecture de ce qu'est une entreprise vertueuse.
Ou en transition elle-même.
Voilà,
alors
justement, c'est très très important. Oui. On prend des groupes pétroliers, on peut toujours dire, ce sont des pollueurs. Bon, maintenant, la question, c'est pas tellement de savoir ce que l'histoire a fait de ces entreprises, puisque finalement, à une époque où déjà on ne savait pas effectivement le mal qu'on faisait à la planète, on était bien content d'avoir de l'énergie fossile pour nous développer. Par contre, ce qui est important, effectivement, c'est de savoir comment se transforment ces entreprises dans un contexte où leur impact environnemental peut être assez fort. Donc, il faut effectivement une grille de lecture. C'est-à-dire, il faut, je dis toujours, regarder déjà où le climat se trouve dans l'entreprise. Si ça se trouve à la direction de la communication, on peut avoir des doutes sur le caractère extrêmement sérieux du projet de transition. En revanche, si c'est à la direction stratégique, il faut commencer du coup à creuser vraiment le contenu. Et puis, il faut peut-être pas hésiter à aller justement, je dirais presque phagocyter ces entreprises pour pouvoir accélérer la transition de l'intérieur, là où elle est déjà entamée quelque part.
Plutôt que de boycotter.
Voilà.
L'arme idéale, c'est d'entrer, être dans la place.
place.
Et ce qu'il faut absolument mettre en place, c'est une grille de lecture et d'analyse pour aider le jeune diplômé, par exemple, à choisir son entreprise ou en tout cas à défier, pour ne pas emprunter d'anglicisme, donc à défier, je dirais, son entreprise en disant « mais qu'est-ce que vous faites ? Comment vous le faites ?» etc. Donc la position qui est très française, hein, on boycotte assez facilement en France, hein, mais le message qui est envoyé et cette menace du boycott quelque part, en particulier de ces ingénieurs de très grandes écoles ou de ces commerciaux de très grandes écoles, c'est que derrière, les entreprises sont en panique. Ils ont peur...
Et ne pas rester au stade de la communication, comme vous disiez, mais être vraiment dans l'action.
Ils ont vraiment peur d'assécher leur vivier d'ingénieurs de très haut niveau, de commerciaux de très haut niveau.
Rodolphe Durand.
Il les assèche. Donc, pour répondre rapidement à la question, je pense que notre mission est une mission, effectivement, d'université, alors même si c'est une grande école, mais d'université ou d'universitaire, et donc c'est d'être en lien et en relation avec le monde économique. Et donc, de la même façon, je pense pas que le boycott soit une façon de répondre à ces demandes. Donc, c'est proposer des programmes de formation, les accompagner, et après, au cas par cas, regarder effectivement si on est vraiment dans une action où, finalement, la mission d'éducation et de recherche est bafouée ou manipulée vraiment par une entreprise à son profit. Mais ces cas-là sont quand même relativement rares. Ils peuvent exister, mais rares. Je pense, de la même façon que vous l'avez très bien dit, pas de posture particulière, une attention particulière, une mission de formation et d'enseignement et d'accompagnement.
Alors, je vous propose de partir du côté du campus de la transition, voir si c'est une réponse directe aussi à cette quête de sens des étudiants et écouter tout d'abord un extrait de cette vidéo « Relations prof-étudiants ».
Il ne faut surtout pas oublier que le principal rôle du climat, c'est de conditionner la vie. Et que ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il fasse chaud ou qu'il y ait de l'eau, mais c'est quel est l'impact sur la vie.
Les animateurs qui sont venus partager une expérience de vie qu'ils ont eue. Mais ils étaient aussi désireux d'échanger avec nous, en fait.
Pendant le deuxième voyage, on a eu l'occasion, en fait, de vraiment travailler tous ensemble sur une zone agricole donnée. Et justement, ça, pour moi, ça a été un moment très important. Comparé à tous les travaux un petit peu académiques qu'on avait pu avoir auparavant, donc qui faisaient appel à nos connaissances intellectuelles, vraiment. Là, on a eu un moment plutôt manuel et implicitement, ça a créé des nouvelles dynamiques entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez révélateur de ce que nous a apporté ces deux derniers mois.
Et moi, ce que je retiens, c'est finalement l'expérience qu'on a pu vivre ici, au-delà de toutes les connaissances qui ont pu être partagées. On interagit et on s'enrichit les uns les autres.
La transition, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre une nouvelle façon d'interagir, de rester en lien, de savoir s'entraider, de savoir coopérer.
Et du coup, voilà, je pars avec des outils pour me changer moi et ensuite essayer de changer le monde.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Cécile Renoir, ce campus de la transition, expliquez-nous en fait comment fonctionne-t-il ? Est-ce qu'il est pérenne ? Il a été lancé donc cette année, ça fait 2 ans que vous travaillez sur le projet. Est-ce qu'il est là véritablement pour remplir ce rôle de formation ? En même temps, en sachant qu'il y a un nombre sélectionné d'étudiants qui peuvent bénéficier pour l'heure des formations délivrées sur place.
Alors, c'est le démarrage, donc on espère qu'il va croître, même s'il reste une petite institution qui est donc dans un lieu, à Forges, un village de 500 habitants, en Seine-et-Marne. Donc, ce qui permet justement d'avoir de relier une interrogation sur la nécessité de réfléchir au fonctionnement de nos mégalopoles, et puis en même temps voir les sujets dont on a beaucoup entendu parler cette année avec les Gilets jaunes, de quelle justice sociale à l'heure de la transition écologique aussi, et comment faire pour réfléchir à des sociétés, comme on dit, plus inclusives, plus solidaire, et à travers donc un lieu qui se veut être un lieu de formation, de recherche et d'expérimentation. Alors nous sommes cette année 9 à habiter sur place pour au moins 1 an. Donc je suis un peu la vieille entre guillemets avec des jeunes professionnels qui sont à fond pour se mettre au service du projet qui a beaucoup de sens pour eux. Et puis il y a des jeunes qui nous rejoignent pour un temps plus ou moins long comme bénévoles et pour préparer aussi l'accueil donc de formations qui peuvent être des formations comme celle dont nous venons d'entendre un écho qui a été le TICAMP. Et je regarde André puisqu'il a participé donc à cette première édition du TICAMP, formation de 2 mois. Organisé avec le mouvement Colibri, en partenariat, qui aura lieu de nouveau cette année de mi-avril à mi-juin. Alors si des jeunes écoutent cette émission, qu'ils n'hésitent pas à se manifester s'ils sont intéressés, avec l'idée justement, comme ça a été reflété par les propos des uns et des autres, mettre en perspective les savoirs, les connaissances, quelque chose d'un premier petit socle commun,
sur les enjeux de la transition et puis l'articulation avec des savoir-faire, des savoir-être, des manières d'être en relation les uns avec les autres et aussi beaucoup au territoire avec différents types d'acteurs. Et ça se veut surtout, et je regarde là aussi mes collègues de grandes écoles, et ça pourrait être aussi par rapport à des universités, un lieu qui ne se veut pas replier sur lui-même, mais que nous désignons comme un campus inter-académique ou inter-universitaire. Cette année, on a eu un cours de l'École centrale de Paris qui a été délocalisé pour 4 jours à Forges, un cours de l'ESSEC aussi. Et voilà, l'idée, c'est de multiplier comme ça des partenariats pour que ce lieu serve son rôle, qui va être un peu un catalyseur de ce que peut être une mise en transition. Et c'est vrai, quand on est en immersion quelques jours dans un lieu dans lequel tout reste à faire, parce que nous, on a vécu un hiver dans un château, parce que c'est un château du 18e, qui est une vraie passoire énergétique.
Ah oui, donc il faut aussi restaurer le château, c'est ça?
Restaurer, ben voilà. On a eu cette année des étudiants, notamment pas mal d'écoles d'ingénieurs, qui sont venus nous aider à isoler les brisilles du 2e étage avec une entreprise d'insertion. C'est dire qu'on veut vraiment aussi relier les aspects économiques,
le vivre et le penser,
sociaux. Voilà,
c'est ça, le vivre et le penser. Anne-Rel Prieto, qu'est-ce qui vous a fait venir finalement aux Forges, vous?
En école d'ingénieur, je ressentais une forme de frustration assez forte et je n'étais pas le seul face au constat que les enseignements que je recevais ne correspondaient pas à tous les messages que je recevais de l'extérieur vis-à-vis de l'urgence climatique, environnementale. Lorsque le GIEC m'explique que si nous ne faisons rien, nous nous dirigeons allègrement vers plus 5 degrés de réchauffement au niveau donc global, c'est-à-dire presque 2 fois plus sur les continents, et que je vois que le système autour de moi ne bouge pas trop, c'est inquiétant et ça crée une forme de schizophrénie. Et donc, ce qui m'a amené à participer au Campus de la Transition, c'était finalement essayer de trouver cette formation que je n'arrivais pas à avoir à l'école polytechnique, mais que je n'aurais pas eu non plus dans d'autres écoles.
Vous êtes resté combien de temps ?
2 mois. Ça m'a marqué parce que j'ai pu rencontrer donc des personnes réellement engagées dans la transition, des penseurs, des personnes qui ont vraiment une vision très très cohérente et qui ne sont pas des militants. Et en même temps, c'était très fort parce que les études en grande école sont finalement assez peu corrélées au concret. Et là, on nous proposait vraiment des moyens de réfléchir à des solutions précises que l'on pourrait mettre en place et donc les appliquer. C'est finalement la démarche qui correspond à celle du manifeste également. Parce que donc face à des messages si inquiétants donc de la part des scientifiques, il y a 3 possibilités. Soit on ferme les yeux et on est dans ce qu'on appelle le déni. Soit on déprime, soit on change les choses.
Philippe Drobinski, par exemple, à Polytechnique, ou alors Rodolphe Durand, à HEC, est-ce qu'effectivement, ces expériences déjà sont intéressantes, sont des lieux innovants, mais dont on peut s'inspirer aussi pour aller plus loin ou imaginer un cursus ou des enseignements autres? Comment vous voyez les choses, Philippe Drobinski?
Alors moi, d'abord, j'adhère, ça c'est évident, toutes les initiatives de comprendre comment la transformation peut se mettre en place, ce sont des initiatives qui sont absolument fondamentales. Le spécialiste de la schizophrénie, probablement autour de la table, c'est un climatologue, c'est moi, qui est à la fois être le diagnosticien de l'état de la planète et que, effectivement, pour éviter de me tirer une balle tous les soirs en rentrant chez moi, avait aussi cette volonté d'amener les étudiants à passer à l'action. Alors, la question de toucher le doigt de la transformation, c'est-à-dire effectivement de passer d'un cours théorique à quelque chose d'une mise en œuvre pratique, enfin une action, c'est quelque chose qui est très important. Donc, effectivement, ça a été créé en juin dernier, le centre interdisciplinaire Energy for Climate, donc à l'École Polytechnique, qui regroupe non seulement l'École Polytechnique, mais donc les fameuses écoles de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, l'ENSTA Paris, l'ENSAE Paris, les 2 télécoms avec en association justement HEC. L'idée, c'est que c'est par l'expérience que l'on va arriver à faire bouger les choses. Donc là, on est en train de créer autour du triptyque enseignement, recherche, innovation. C'est d'intégrer ces 3 éléments dans la transformation en termes d'objectifs de développement durable de l'entreprise, enfin des établissements en tant qu'entreprise elle-même. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place un projet, donc un plan de route en termes de campus, de neutralité carbone du campus. Et l'idée, c'est que autour de ce projet-là, on puisse installer des vrais démonstrateurs de dispositifs innovants issus de la recherche qui permettent effectivement de réduire notre empreinte carbone, de pouvoir adosser à ces démonstrateurs taille réelle. Hein. Là, je parle vraiment de taille réelle, surtout qu'il s'avère que le campus de Polytechnique est un campus où il y a quand même plusieurs milliers d'habitants. Donc, d'installer des questions de la mobilité, qu'elle soit électrique, mobilité douce, mobilité vélo. Donc, de pouvoir aussi réaliser réalisé sur le campus de Polytechnique, un vrai démonstrateur d'une ville en transformation, mais en s'appuyant, et ça c'est la force du fait qu'on a une activité de recherche très forte sur ces questions-là à l'IX, c'est de pouvoir y associer des démonstrateurs soutenus par la recherche et l'innovation, associer à ces démonstrateurs des formations, des stages, des projets pour les étudiants, et bien évidemment, en plus, répondre aux objectifs de développement durable de l'établissement lui-même.
Rodolphe Durand, HEC, se pose ces questions-là de développement durable aussi du bâtiment lui-même ou pas?
Alors,
des lieux?
Je vais d'abord répondre sur les expériences, etc. Donc nous, depuis 10 ans, on offre de multiples expériences appliquées à nos étudiants. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, le nombre d'étudiants qui passent grandit chaque année. Donc on a ce qu'on appelle des fact expériences. Donc c'est l'apprentissage en direct avec des ONG ou des petites entreprises ou des plus grosses en France, à l'étranger, sur les enjeux environnementaux. On a aussi des summer schools, donc des écoles d'été, où on reçoit des gens pour les former sur ces thématiques. Tout un ensemble, en fait, de programmes qui déjà se passe beaucoup par le concret, par l'application, par l'expérimentation. Donc cet effort a déjà été fait déjà depuis une dizaine d'années. Ce que nous n'avons pas vraiment, et c'est tout l'intérêt de ce qui vient d'être dit, c'est que la recherche en tant que telle dans une école de commerce portant sur le climat est relativement inexistante. Donc notre approche a été vraiment sur l'angle pratique. Nous avons des ensembles de cours, par exemple on a un cours qui s'appelle, nous nos cours sont en anglais puisque beaucoup d'étudiants sont en anglais, donc Have a Cause, Make an Impact, donc porter une cause, influencer son environnement, où là les étudiants s'emparent des questions du développement durable sur le campus, donc les bouteilles en plastique, le tri, les transports, l'ouverture des murs. Pour ceux qui sont allés sur le campus d'HEC, c'est quand même relativement, je vais utiliser un mot, regrettable que en fait ce campus soit entouré d'un mur qui le clôt de son espace environnant, et donc c'est ouvrir ses murs, être beaucoup plus relié au village environnant ou à la ferme qui nous jouxte. Donc tout un ensemble d'offres pour lesquelles les étudiants sont vraiment acteurs. Et donc ça se vit à l'intérieur du campus.
Cécile Renoir, moi je reviens toujours quand même au sentiment que j'ai quand je discute avec les étudiants, c'est quand même ce sentiment qu'on n'y est pas du tout. Et que la façon dont les cours sont encore organisés, les matières enseignées, ne reflètent pas vraiment la façon dont il faut
les enjeux imbriqués. C'est trop homéopathique, c'est ça.
Voilà, c'est homéopathique. Je reviens là d'une conférence à Londres en lien avec l'approche des capacités, association fondée par Amartya Sen, et je discutais pas mal avec notamment des professeurs d'école de commerce. Et alors, il y en a une qui me partageait une initiative qui a lieu à la Copenhague Business School, mais c'est pas encore passé. C'est de dire comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux aussi d'enseignants-chercheurs qui sont complètement piégés par des exigences pour faire carrière qui sont en fait complètement antinomiques avec les enjeux de la transition, puisque on est supposé aller à travers la planète pour participer à des colloques, puisqu'on est supposé avoir des niches sur lesquelles on va travailler de manière très 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 pointue. Et là, je donne l'exemple de cette école qui proposerait qu'il y ait un budget carbone pour chaque enseignant, avec un budget carbone qui décroisse au fur et à mesure des années, en disant, en gros, en début de carrière, on a davantage besoin de se déplacer, peut-être que ça vaudrait aussi peut-être pour les jeunes, plus besoin de visiter le monde pour faire des expériences, rencontrer d'autres. Et puis qu'ensuite, notamment là pour les enseignants-chercheurs, et ben en fait, décider de ne plus prendre l'avion, de le prendre très peu, enfin essayer en fait, de se concentrer.
D'être lié ou par Skype ou WhatsApp ou d'autres moyens, les conférences téléphoniques et autres, il y a moyen effectivement de ne pas inonder le monde ou de voyageurs par avion, c'est ce que vous dites. Hein. Je vous propose d'écouter votre choix musical, Philippe Drobinski, Othello, c'est ça?
Oui.
De Chilly Gonzalez. Oui. Il y a une raison particulière?
Non, c'est juste un morceau que j'aime beaucoup, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup le jazz. Thank you.
Et c'est la suite de notre émission sur France Culture avec comme thème aujourd'hui comment les grandes écoles et les universités se mettent au vert en matière de programmes et comment étudiants et professeurs agissent ensemble pour le monde de demain. Avec nous, Cécile Renoir, professeure de philosophie au Centre Sèvres, à l'École des Mines de Paris, à Sciences Po et à l'ESSEC. Et je précise que vous êtes aussi co-présidente du campus de la transition. Je mentionne notamment un de vos livres, Cécile Renoir, Éthique et entreprise, paru aux éditions de l'Atelier. Avec nous, Rodolphe Durand, professeur de stratégie et politique d'entreprise de HEC. On peut aussi mentionner votre dernier livre, je crois, La désorganisation du monde, paru aux éditions Bordelot. Et puis, avec nous, toujours, Philippe Drobinski, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique, et également l'étudiant Anne-Raël Prieto, polytechnicien diplômé, qui vient d'intégrer le corps des mines. Voilà, vous êtes avec nous. Je me tourne vers vous, Philippe Drobinski. J'ai mentionné au début de l'émission que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur travaillait donc sur une refonte des programmes avec en vue ou en ligne de mire, j'imagine, ces enjeux climatiques, le réchauffement et ces enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez quelques éléments, quelques informations? Vous êtes sollicité, vous? Pas du tout.
Alors, là, sur ce sujet précis, enfin, bien sûr, les questions de formation, bien évidemment, mais là, sur ce point précis, absolument pas. Mais je me réjouis, par contre, que, effectivement, ces questions-là puissent remonter au plus haut niveau, parce que il est important que le travail, je dirais, de la base ait fonctionné. On a revu, et je voulais peut-être juste rajouter sur le fait que le manifeste des étudiants, alors qu'à l'IX, à l'École Polytechnique, nous avions déjà un cursus de formation important. J'ai eu, en tant que climatologue, par contre, j'ai eu très rapidement les étudiants dans mon bureau pour justement interagir un petit peu sur ces questions-là. Et dès novembre dernier, nous avions décidé, avec la direction de l'école, qui a beaucoup appuyé le projet, de co-construire 3 jours de sensibilisation à toute la promotion donc tronc commun, c'est-à-dire les premières années. Donc un premier démonstrateur. Donc on a, en juin et juillet dernier, mis en place un premier démonstrateur de 3 journées de sensibilisation aux questions environnementales pour toute la promotion. À partir de l'année prochaine, donc, nous travaillons à la deuxième édition, donc cette fois-ci qui sera obligatoire pour toute la promotion. Nous avons touché, l'objectif était 100%, mais on savait très bien que, vu l'urgence dans laquelle on a monté ça, on a réussi à toucher 50%, ce qui est pas mal, hein, sur des promotions de 500. Et puis, donc là, ce sera à partir de l'année prochaine obligatoire pour toute la promotion. Et l'objectif après, c'est non seulement de le rendre obligatoire, de le comptabiliser dans l'enseignement et surtout de l'ouvrir aussi aux autres, puisque l'École Polytechnique ne sont pas que des élèves du cycle ingénieur polytechnicien, ce sont aussi des étudiants de master et des bachelors, ce qu'on appelle, donc des post-bac. Donc, d'ouvrir cette formation non seulement à l'ensemble des étudiants et aussi pour nous, même à l'ensemble des employés, en fait.
Voilà. Avec un corps enseignant partant à 100%, ou est-ce que vous ressentez quand même des réticences, peut-être, parce que c'est un bouleversement, faut l'admettre.
Non, je crois pas que il n'y a pas une adhésion absolument unanime, bien évidemment, à ces questions-là. On bouscule d'abord des habitudes, ça c'est les premiers points. On demande peut-être pour certains même de réorienter un certain nombre de penser à des réorientations de ces enseignements. C'est pas un parcours juste tout simple, mais par contre, comme il y a de l'histoire, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une histoire de sur la formation, il y a des enseignements qui préexistent. Donc on est plutôt en train de consolider, je dirais, l'existant, plus que de bouleverser complètement. C'est pour ça que cette initiative là sur campus de la transition, je trouve ça très pertinent, parce que je pense que justement autour de la table, il n'y a pas forcément toujours le bon échantillon, comme ça a été dit. Partout en France, on n'a pas les moyens de former véritablement ces problématiques-là, parce que le corps enseignant n'existe pas, parce que peut-être tout simplement il n'y a pas de laboratoire de recherche derrière capable de fournir, je dirais, des ressources d'enseignement. Je trouve que la démarche qui est particulièrement
l'initiative là, oui.
Et cette initiative-là, c'est plutôt du coup d'être capable de dire je vous invite à venir. Vous n'avez pas les moyens chez vous, mais je vous invite à venir. Et ça, je pense que c'est très complémentaire finalement de ces grands campus qui sont quand même capables déjà, je dirais presque, de poursuivre cette ambition de formation très généralisée ces questions d'environnement, donc comme l'École Polytechnique ou l'Institut Polytechnique de Paris, comme Sorbonne Université, comme PSL. Enfin, il y a quand même quelques grands campus où ces formations-là existent. Hein. Mais effectivement, pour celles où il y a un déficit de ressources de formation, eh bien, je trouve que c'est vraiment une initiative excellente.
Cécile Renoir, peut-être une réaction au propos de Philippe Drobinski.
Oui, je pense que ce qui est spécifique à l'initiative du campus, outre le fait que ça peut permettre justement d'offrir des moyens intellectuels à certaines institutions qui sentent qu'on peut se sentir pas complètement à la hauteur de ce qui est nécessaire, je pense qu'un des apports du campus, c'est aussi cette dimension d'expérience, non seulement d'expérimentation, mais aussi d'expérience personnelle, collective, avec ce que ça peut avoir de reconnexion, comme on dit, avec soi-même, au plus profond, d'interpellation, parlait tout à l'heure, l'étudiant de Centrale, là, qu'on entendait parler de la question éthique comme étant structurante. Alors, moi, je pense qu'effectivement, cette dimension éthique, voire spirituelle, au sens le plus large du terme, qui invite à questionner le sens de nos activités, le sens de nos vies, aujourd'hui et demain, nous avons tous à essayer de puiser à des ressources. Et nous n'avons pas toujours les espaces qu'ils permettent. Et moi, je trouve, enfin de ce qu'on me dit, de l'expérience de ceux qui viennent au campus, c'est qu'il y a quelque chose qui est donné là, qui donne la possibilité à chacun de faire son propre chemin avec d'autres. Et ça, moi, ça me paraît fondamental, parce que la transition ne se fera pas si ce n'est pas peut-être d'abord
avec un collectif.
Voilà, avec un collectif. Et avec toutes les conséquences que ça a ensuite du point de vue social et politique.
Donc, Rodolphe Durand.
La démarche qu'on essaie de mettre en œuvre à HEC combine ces deux dimensions, c'est-à-dire la dimension climatique-environnement, au travers des pratiques, des expériences que j'ai pu mentionner tout à l'heure, et la démarche de recherche de sens et d'adéquation avec ses propres valeurs, pour essayer d'éviter les trois alternatives qui ont été mentionnées tout à l'heure par Angel. Et ne pas sombrer dans la dépression, notamment, c'est-à-dire la quête de sens. Donc, comme je l'ai indiqué, nos 400 étudiants cette année sont entrés à HEC sans aller à HEC. Ils ont tous été déplacés, donc un tiers était à Chamonix pour voir la mer de glace et travailler avec les guides de Haut-Montagne de Chamonix. Un tiers est allé au Mont-Saint-Michel pour aller vers un chemin de reconnaissance, effectivement, l'ensablement de la baie, mais aussi la spiritualité, l'adéquation à soi-même. Et un tiers était avec l'armée de terre à Coëtquidan pour travailler sur le leadership en équipe et sous stress, pour réfléchir à toutes ces dimensions. Et donc nous, le cursus tel qu'on l'a pensé, se scande année après année autour de cette réflexion sur être soi, être avec, être pour, d'une part, plus les enseignements qui vont être beaucoup plus techniques et liés à, effectivement, la finance verte, l'intégration des enjeux, des objectifs de développement durable dans la stratégie d'entreprise. Ça a été aussi mentionné au tout début. Certaines entreprises le mettent vraiment au cœur, choisissant leur ODD et innovant dans des démarches qui permettent de se rapprocher de ces enjeux et de vouloir bien les atteindre pour 2030. Donc, un ensemble de compétences qui ensuite va être, elle, plus liée aux différentes disciplines qui existent dans le management.
En sachant que ça bouleverse forcément, comme le disait Philippe Drobinski, certaines matières, certains cours, certains enseignements qu'on ne peut peut-être plus enseigner. En tout cas, c'est sûr,
moi,
de la même façon
aujourd'hui. Moi, j'ai un petit message d'espoir parce que je veux être l'optimiste du groupe. C'est-à-dire que, effectivement, il faut bien voir que l'enseignement supérieur est soumis à une concurrence internationale extrême et que la carrière des jeunes professeurs est conditionnée par le fait qu'ils doivent publier dans certains types de revues et pas dans d'autres. Ce qui les ferme pendant 6 ans, à peu près, 7 ans, après leur doctorat, à beaucoup de thèmes qui leur importent, qui peuvent, en fait, leur être chers. Donc, ils sont dans leur discipline et ils acquièrent leur galon. Mais après qu'ils ont été, titularisés, d'une certaine façon, ils peuvent s'ouvrir, et beaucoup d'entre eux, et la création d'espaces comme le Centre Society and Organization leur permet de rejoindre, et puis d'autres, plein d'autres choses, leur permet de rejoindre, et moi je vois, depuis maintenant quelques années, que les profs de compta s'emparent de ce sujet, que les profs de logistique ou d'operation management s'en emparent, et je vois de plus en plus fleurir quand même ces papiers, qui allient le côté scientifique de toute l'expertise qu'ils ont accumulée, ces jeunes profs, pendant 6-7 ans, aux thématiques qui nous sont chères.
Restons positifs alors. Anne-Rel Prieto, le mot de la fin.
J'aimerais déjà saluer tout le travail qui a été entrepris à l'École Polytechnique et donc, qui a été rappelé par Philippe Drobinski. Dire que c'est un bon premier pas dans cette démarche d'informer et de former l'ensemble des étudiants de supérieur aux enjeux environnementaux et encourager d'autres établissements à s'en inspirer, en sachant qu'il y a énormément d'étudiants qui sont prêts à mettre de l'énergie pour ce type de projet, qu'il y a des chercheurs qui sont également très sensibilisés à la cause environnementale, que les directions peuvent être facilement motrices et ont quand même une certaine marge d'action, et appeler également, je dirais, à un soutien institutionnel de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
On peut espérer le livre blanc pour bientôt.
Voilà, donc qu'ils puissent établir vraiment un socle commun cohérent avec l'ambition que nous avons vis-à-vis de ces enjeux. Et souligner le cas des établissements qui n'auraient pas les moyens de mettre en place de telles formations parce que peut-être les élèves vont être moins moteurs, parce qu'il y a tout simplement moins de moyens à disposition, moins de chercheurs compétents sur ces enjeux. Et donc réfléchir, là encore d'un point de vue institutionnel, à comment
mettre en commun les moyens, les lieux, ou comme on disait avec le campus de la transition. Voilà. C'est travailler ensemble et mettre en place un collectif probablement utile entre les grandes écoles notamment et pourquoi pas les universités aussi. Merci à tous les quatre. Je rappelle que les informations, vos phrases mantras, conseils, livres, films, etc., les liens sont sur notre site à votre disposition. Mais restez avec nous tout de suite. C'est l'œil du monde planète et l'escale verte. Et comme chaque semaine, nous prenons la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire, et le tout pour un coup de projecteur sur une info environnement choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, Audrey Garic est l'œil du monde Planète. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors, votre choix s'est porté sur les prochains grands rendez-vous pour le climat, avec notamment le 23 septembre, le sommet Action Climat, organisé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et deux jours avant, le sommet de la jeunesse. Alors, de quoi s'agit-il ?
Donc, c'est un sommet qui va rassembler une centaine de jeunes que l'ONU qualifie de jeunes champions pour le climat et qui ont été sélectionnés parmi 7000 candidats pour leur engagement contre le dérèglement climatique. Et ils vont devoir, ces jeunes qui sont un par pays, ils vont devoir présenter des solutions pour répondre à cette crise écologique et climatique que l'on traverse. Ils vont réfléchir à plein de thèmes et comment on pourrait accélérer les efforts dans la lutte contre le changement climatique. Et ensuite, ces propositions, ils vont les soumettre aux chefs d'État et de gouvernement qui se rassembleront, comme vous l'avez dit, le 23 septembre.
Donc un processus inédit qui n'existait pas auparavant.
Oui, c'est la première fois, voilà, parce que le sommet pour le climat de l'ONU, le Ban Ki-moon en avait déjà organisé un, donc le précédent secrétaire général de l'ONU en avait déjà organisé un en 2014, mais il n'y a jamais eu un sommet spécial de la jeunesse. Et là, pour Antonio Guterres, c'est quelque chose de très important. Il appelle très régulièrement les jeunes à être à la pointe de la mobilisation contre le changement climatique. Et c'est aussi en écho à toutes ces mobilisations qu'on a vues depuis un an à l'initiative à la base de Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui a créé le mouvement des grèves scolaires pour le climat tous les vendredis. Et donc, on a vu des milliers et certains jours même des millions de jeunes descendre massivement dans la rue. C'est ce qui va avoir lieu aussi le 20 septembre à New York et dans plein d'autres villes du monde. Et donc, Antonio Guterres a voulu répondre à cet appel de la jeunesse, à cette demande des jeunes d'avoir des actions plus fortes des États et des gouvernements en faveur de la lutte contre le changement climatique.
Et alors, Audrey Garic, vous avez rencontré le jeune Français qui a été sélectionné pour prendre part à ce sommet de la jeunesse pour le climat ?
C'est ça. Donc, j'ai rencontré Com Girsching, qui est donc le Français qui a été sélectionné parmi les 7000 candidats. Il a eu ce qu'on appelle un green ticket. On lui a donné, en fait, un aller-retour pour New York qui sera donc en avion. Donc, contrairement à Greta Thunberg qui est partie, elle, en voilier pour New York. Donc, mais son trajet sera entièrement compensé. Donc, comme c'est donc un Français qui a été sélectionné pour tout son engagement, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent pour lutter contre le changement climatique. Il est diplômé de Sciences Po Paris, des ponts Paris Tech, donc c'est un esprit brillant. Et depuis 4 ans, il s'est mis un peu au service de la lutte contre le changement climatique. Il a fait plein de choses. En fait, il essaie de vulgariser la crise climatique et d'appeler à agir de plein de façons différentes. Il déteste un peu tous les vecteurs et il a à la fois été observateur des négociations climatiques internationales. Il connaît donc déjà les arcanes onusiens. Et il a aussi été dans le mouvement Youth for Climate France, qui est donc le mouvement des grèves internationales pour le climat en France. Il a également débattu avec l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, sur la taxe carbone. Et surtout, en fait, je pense que c'est avant tout pour ça qu'il a été sélectionné. Il a co-créé une association l'an dernier qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Et aujourd'hui, il y a une quarantaine de membres qui ont donné une centaine de conférences. Et le but, c'est au travers de ces conférences, d'expliquer ce que sont les négociations climatiques et ce qu'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, en quoi consistent ces travaux, donc ce qu'est la science du climat, et il veut élargir en fait la connaissance, toucher tout le monde en France pour expliquer tout ça.
Qu'est-ce qu'il attend lui concrètement de ces rencontres ?
Il dit qu'en premier lieu en fait il attend de l'inspiration parce que il a envie de voir tous les autres jeunes qui sont mobilisés comme lui et de comprendre comment on peut continuer à mobiliser les jeunes, comment on peut continuer à mobiliser aussi plus largement tout le monde, et que comme il a testé un peu tous les vecteurs, il a aussi un petit peu perdu et il veut voir un peu comment continuer le combat. Et après il attend évidemment de l'action parce qu'il dit voilà, on a suffisamment dit que là, il y avait une crise et maintenant il faut agir. Et contrairement à d'autres jeunes qu'il avait pu rencontrer dans les marches pour le climat, lui, il appelle les jeunes à agir à la place des dirigeants. Il dit on peut plus seulement se contenter d'interpeller les dirigeants, mais maintenant c'est aux jeunes aussi de prendre la place du politique et de s'engager en politique par exemple lors des municipales en 2020 ou lors des législatives en 2022, et que s'il y a un élan massif de la génération climat, comme on l'a appelé, vers la sphère politique, là, il pourra avoir en fait une véritable transition et on pourra faire bouger les choses.
Donc il s'appelle Côme Guirching, il est à découvrir, Audrey Garrigue, dans votre article. Puis nous vous suivrons, Audrey, dans votre voyage aux États-Unis.
Merci Aurélie.
Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Ce matin, en approchant de la sèche, la première chose qui vous saute au visage, ou plutôt au nez, c'est l'odeur que dégage le cours d'eau. À la surface flottent des poissons en putréfaction par milliers. La rivière semble morte sur plusieurs kilomètres. Pour les pêcheurs, la situation est dramatique.
Depuis 30 ans, j'ai jamais connu ça, une mortalité si conséquente. On a vu quelquefois des petites portions de la sèche avec des poissons crevés, mais cette année, ça bat les records.
Il y a 10 jours, les rejets de l'usine Lactalis de Retiers dans la rivière privaient l'eau de son oxygène. Les poissons ne sont pas morts empoisonnés, mais asphyxiés. Malgré l'alerte lancée par les pêcheurs, l'usine ne semble pas avoir réagi suffisamment tôt. Aujourd'hui, l'ampleur de la pollution est catastrophique.
Bah là, plusieurs grosses anguilles, du silure, de la brème, du gardon, du rotangle.
Mardi, lorsqu'on a été alerté par les pêcheurs, on pense que seulement 2 km de cours d'eau étaient impactés. Aujourd'hui, on en est à 7,5 km de cours d'eau. Donc la situation est dramatique et en 5-6 jours, les mortalités se sont multipliées.
La Fédération de pêche a déposé une plainte aujourd'hui et la préfecture a établi un procès-verbal contre Lactalis.
Et comme chaque dimanche dans notre escale verte, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des coins de paradis, des lieux en danger, découvrir aussi des actions positives, négatives, des événements, en tout cas le tout avec des chercheurs, des acteurs de cette transition en cours. Aujourd'hui, direction Rennes, où notre invité a pris place dans les studios de France Bleu Armorique avec à la technique Thibaut Bourgeon. Bonjour Jérémy Grandière.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Alors peut-être en quelques minutes, peut-être peut-on rappeler quelle était cette pollution survenue en août 2017 ?
Une pollution qui est aujourd'hui identifiée, la cause étant l'entreprise, la société laitière de Retiers, qui appartient au groupe Lactalis, un dysfonctionnement suite à des essais, une mise en place d'une nouvelle ligne de production, ont généré un fort rejet chargé en matière organique qui a provoqué la mort complète de 8 km de cours d'eau.
Donc des résidus de lait concrètement, hein ?
Exactement, des résidus de lait, donc un accident, et qui a provoqué justement cette mortalité complète.
Et donc il faut préciser quand même, parce que pour les auditeurs, du lait c'est pas si nocif que ça, mais le lactose en fait utilise beaucoup d'oxygène pour se dégrader dans l'eau, et donc les poissons n'avaient plus, sont morts d'asphyxie.
En fait ce qu'il faut savoir c'est que tous ces rejets, et c'est aussi ça le problème en Ille-et-Vilaine en ce moment, c'est que tous ces rejets sont autorisés, et c'est qu'à un moment donné, ces rejets, du moment qu'ils respectent ces bonnes valeurs, ne sont pas contraignants dans le fonctionnement. C'est un apport d'une eau nouvelle, mais qui n'est pas contraignante pour la vie piscicole. Sauf que là, ce dysfonctionnement important a fait que ce rejet était fortement chargé en lactose, en matière organique, et pour se désintégrer, se désagréger, il consommait énormément d'oxygène. Donc on imagine qu'en fait, nos poissons ne sont pas morts d'une pollution foudroyante, comme peut être de l'hydrocarbure. Là, on avait un apport nouveau qui a asphyxié les poissons et puis un puissant rejet. Donc, ce qui fait que nos poissons sont morts asphyxiés progressivement. Ça a duré de nombreux jours. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment la colère des pêcheurs d'Ille-et-Vilaine. Parce qu'entre le moment où on l'a identifié et le moment où ce rejet s'est arrêté, il y a eu de nombreux jours. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse colère. Parce que là, on a eu l'impression que ouvertement, enfin, c'était une volonté de nuire. Oui.
Donc, Lactalis, en fait, on peut parler de quoi ? De défaillance, de non-prise de conscience de la pollution qui était en train de se jouer. Il faut rappeler que la pollution s'est étendue sur 8 km et qu'il y a eu plusieurs tonnes de poissons morts.
C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que a été identifié lors de cette première prise de conscience et l'arrivée d'une entreprise spécialisée, ils ont annoncé entre 15 et 20 tonnes. Mais la problématique, elle est que ça a tellement duré longtemps qu'entre le moment où il y a eu la première mortalité et le moment où il y a eu le premier ramassage, il y a eu 5 à 6 jours. Donc vous imaginez bien que par une forte chaleur d'août en 2017, beaucoup de poissons sont tombés dans le fond et n'étaient pas ramassables. Enfin, moi, je me rappelle très bien voir des poissons passer au travers des épuisettes et donc c'était pas possible de les ramasser. Et justement, le problème est là, c'est qu'il y a une faute qui a été identifiée. Lactalis est bien déclaré comme coupable.
A été condamné d'ailleurs le 7 mai dernier.
A été condamné, mais ils ont fait appel quand même. Donc c'est ça qui me froisse terriblement, c'est qu'à un moment donné, ils ont toujours tenu un discours comme quoi ils admettaient leur tort. Mais derrière, à partir du moment où le tribunal tribunal statue et qu'on les identifie comme coupables et qu'ils doivent payer
250 000 euros d'amende et verser 70 000 euros aux associations qui se sont constituées partie civile.
Voilà, c'est ça. Donc avec une priorité pour la Fédération de pêche des Livilaines. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à contribuer financièrement et à mettre autant de bénévoles en place pour la conquête, enfin la reconquête en tout cas, écologique de cours d'eau.
Aujourd'hui, où en est la rivière La Sèche ?
Aujourd'hui, on a un cours d'eau où il y a une vie piscicole. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact sur des reproducteurs, tous ces poissons qui étaient en capacité de reproduire, on ne pourra pas les remplacer. Et ce serait complètement fou de penser qu'on peut répondre à une pollution par un simple déversement. La nature, elle prend place progressivement. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter des zones propices à cette colonisation. Donc il va falloir travailler là-dessus. L'argent de Lactalis sera intégralement utilisé pour ces actions de restauration. On a besoin de créer des zones humides, des zones refuges, mais surtout des zones de reproduction. C'est dramatique de penser qu'on peut être identifié comme coupable et d'avoir autant d'argent et de refuser d'en mettre en place. Donc ils peuvent tenir n'importe quel discours, je suis désolé. Aujourd'hui, on prend du retard, une fois de plus. Donc il y a toujours une population de poissons. Après, nous, aujourd'hui, pour notre loisir, qui est le loisir pêche, cette disparition de ces gros spécimens qui généraient beaucoup d'attrait, en fait. En Ille-et-Vilaine, La Sèche est une rivière de deuxième catégorie où il y avait une population très importante de carnassiers. On avait la meilleure frayère à brochet du département. Je rappelle quand même que le brochet est une espèce en voie de disparition inscrite sur la liste rouge des espèces menacées. Donc cette pollution a eu un impact très important sur plein de populations, comme les anguilles menacées également, mais les brochets, on a vu disparaître des années et des années de travaux et de restauration.
Oui, vous évoquez la frayère à brochet située à Manlis, qui était la meilleure du département. Aujourd'hui, Jérémy Grandière, quelles sont les garanties données ou mises en place par Lactalis pour ne plus revivre ce genre de pollution?
Ce qui me fait très peur, c'est qu'on avait différentes garanties. Le mercredi 7 août, un nouvel épisode de pollution s'est passé. Aujourd'hui, je me bats depuis 3 ans sur le fait que on ne peut pas placer un département en état de sécheresse sans reconsidérer ses autorisations de rejet. Pour pouvoir maintenir et respecter ses autorisations de rejet, ils sont obligés d'utiliser différents produits pour stabiliser justement en fait le rejet. Et on a eu un problème le 7 août, c'est pour ça que j'ai alerté encore semaine dernière les services de l'État, on en parle régulièrement. Le 7 août, à 7h20, un incident, d'un coup d'un seul, en quelques secondes, notre rivière est devenue marron, très très chargée, très odorante. On n'a pas eu de mortalité à ce moment-là. Mais par contre, on a vu notre cours d'eau, qui est quand même un cours d'eau assez important, qui fait plusieurs mètres et jusqu'à 2 à 3 mètres de profondeur, se teinter d'un coup d'un seul. À 10h, un pêcheur en fait nous alerte. À 11h, je suis sur place. La société Lactalis de Rottier alerte les services de l'État qu'à 14h. Donc une fois de plus, j'ai pas l'impression que vraiment ça leur a servi de leçon, et ça me peine terriblement parce que on prend tous des engagements. Je voudrais bien qu'ils tiennent les leurs. Ce que j'ai peur, c'est que ça arrive trop régulièrement et que si on n'est pas sur place et que si on n'est pas vigilant, eh ben, on passe à travers.
Dossier à suivre, hein, donc, Jérémy Grandière. Merci. Merci à vous. On suivra ça, bien évidemment, avec vous. Et toutes les informations, bibliographies, liens sont disponibles pour vous, auditeurs, sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Dimanche prochain, c'est la loi mobilité et l'avenir de nos déplacements que nous scruterons, avec notamment l'ingénieur centralien Laurent Castagnède. Et puis, dans un instant, si vous voulez en savoir plus sur la pollution dans les écoles et aussi sur la jeunesse qui peut peut-être changer les choses, écoutez la suite de vos programmes sur France Culture, avec Être et Savoir, Louise Touré et ses invités.